Radio Foot International. Annie Gasnier.
Moskva, dobrý deň. Bonjour à tous et bienvenue dans Radio Foot International, notre dernière émission en direct de Moscou parce que Française championne Mira, la France est championne du monde.
Champion du monde, champion du monde, champion, champion, champion du monde.
20 ans exactement après leurs aînés, 20 ans après Zidane, Deschamps et leurs camarades qui avaient décroché la première Coupe du Monde, des Bleus emmenés par Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont décroché une deuxième étoile. C'était hier dans l'historique stade Loujniki de Moscou, dans un stade acquis à la cause adverse, mais les Français étaient les plus forts et ils ont battu les Croates par 4 buts à 2. Retour dans cette émission sur cette victoire vue de Moscou, vécue à Paris, sur l'ensemble de la compétition où les équipes africaines ont disparu un peu trop tôt. Elles ont disparu d'ailleurs comme l'Allemagne, l'Argentine ou le Brésil. Et puis coup d'œil sur cette Russie qui a organisé une fête presque parfaite. Et invité justement dans ce studio pour évoquer ces sujets. D'abord, Eric Mamrut, notre journaliste, qui est notre Russie trotteur, on peut dire, Eric Mamrut.
Bonjour à tous.
Hein, vous avez fait pas mal de stades dans ce pays.
Oui, j'ai eu la chance de visiter pas mal la Russie. Bon, les stades surtout, pas beaucoup les villes, un petit peu, mais ça a donné quand même une belle impression de ce beau pays.
Alors à vos côtés, un confrère russe qui lui aussi s'est beaucoup baladé derrière l'équipe de France, c'est Constantin Kletchev. Bonjour Constantin.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre confrère de Match TV et de Sport FM. Et puis il y a aussi Ali Keita, le correspondant local du service des sports d'RFI. Bonjour Ali.
Bonjour à tous, bonjour Annie.
Et puis Richard Naha, bonjour Richard.
Привет, Annie. Bonjour, Annie. Je vais commencer par le
Ça
russe.
Ça fait longtemps que vous êtes là, vous aussi, on
oui.
voit. Tout à l'heure, nous rejoindrons d'autres journalistes. Vous êtes Camerounais, hein, Richard, et vous avez suivi la Coupe pour votre site, c'est ça ?
Oui, pour mon émission La Team, qui passe sur Mediafrique.
Voilà.
Et voilà, c'est une compétition vraiment qui est rentrée dans l'histoire. Et je pense que désormais, plus que jamais, la Russie sera l'exemple pour d'autres nations.
Ouais, ils ont mis la barre très haut, les Russes. Et d'entrée, justement, remerciements à tous ceux qui vous ont fait vivre sur RFI cette aventure en Coupe du Monde, confrères et techniciens. Les noms seront au générique de l'émission tout à l'heure, puisque c'est la dernière émission de la saison. Radio Foot à Moscou, c'est parti.
Direction la Russie, pour vivre la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.
Il prend des pas d'élan, la frappe, et derrière les buts. Les buts d'Antoine Griezmann. L'équipe de France qui ouvre le score ici à Moscou, à Loujniki, après 18 minutes de jeu. Allez les Bleus,
il faut les tuer, il faut les tuer.
On récupère la balle, il va y avoir une frappe et le but. L'égalisation croate, c'est Perisic. Et voilà la Croatie qui égalise, qui revient à un partout.
Le péno. Le péno. Je l'avais dit qu'il y avait péno. Je l'ai vu d'ici, moi, la main. Il y avait péno. Allez, il joue au filet.
Antoine Griezmann, il prend son élan, le buteur français. C'est parti, c'est dedans.
Yeah.
La première mi-temps, on est opportuniste. On fait comme contre la Belgique, on défend. Il faut reconnaître que les Croates, physiquement, sont surprenants parce qu'ils se battent à droite, à gauche, au milieu. On a la chance d'avoir ce pénalty, il faut en profiter. Et il faut arriver à marquer ce troisième, sinon ça va mal se passer.
Le match n'est pas évident. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, ils trouveront un peu la solution, mais là, ils sont un peu en difficulté.
Moi, je m'appelle François Pomponi, je viens de Corse. Et je soutiens l'équipe de France à mort. Voilà, on joue au Lac des Champs. C'est pas forcément spectaculaire, mais ça devrait être efficace.
My name is Zubair and I'm from India. What I feel is Croatia is going to score another goal, even though the French will win. Allez, le bleu. Thank you.
Moi, je viens du Brésil. J'espère que la France peut jouer un jeu très offensif. Alors, ça fait un peu peur. La France a besoin de faire attention parce que jusqu'aujourd'hui, pas encore de faire vraiment le match qu'on attend de la France. Elle peut faire. Allez, le bleu.
La frappe de Pogba, elle est contrée, il a une deuxième chance, la frappe. Ouais, ouais,
RFI.
Attention, Mbappé, la frappe de Mbappé.
France, je t'aime. France pour nous et toute ma vie. Je t'aime. Mais alors, je t'aime d'amour.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire cet orage là au moment de la cérémonie de clôture?
C'est la bénédiction de Dieu pour toute la France.
Bah écoute, moi je vais te dire une chose. Le 9 juillet, j'étais à Berlin. On avait une plus grande équipe que ça. Le 10 juillet, j'étais au Stade de France contre les Portugais. On n'a pas eu de chance. Ce soir, ça a rigolé pour nous. On prend la coupe, on en profite. Moi, je retiens que ça. On est champion, c'est tout. Bravo Deschamps.
Et 1, et 2, et 3, et 4, 1, 2.
En 2006, on était en finale. On l'a perdu, on pleurait avec toutes les larmes de notre corps. Et là, on revient 2 ans après.
C'est magnifique.
Et on est champion. Là, l'année dernière, il y a 2 ans, on perd. L'Euro. On s'en souviendra tous. Et 2 ans après, on revient plus fort. Et on vient
de
gagner.
Alors le titre de champion du monde à Moscou, toute votre vie, vous allez le garder là.
Ah celui-là, on est venu à 6 amis, on a galéré pour arriver, on est même arrivé à une demi-heure après le match. On est arrivé au moment du pénalty de Griezmann, ça a lancé le match.
C'est encore plus beau.
Allez, merci, bonne soirée.
Champion du monde.
C'est le match qu'il fallait pour gagner une finale, tout simplement. Ils ont marqué quand il fallait. Il y a eu de la tension, il y a eu du doute, mais les bleus ont fait ce qu'il fallait pour aller au bout.
Profitez les gars, ça va pas arriver souvent les gars, profitez.
La victoire avec Olivier Pron et Antoine Grenier, leurs commentaires et en tribune, eh bien David Finzel et son micro. Côté français, bien sûr, puisque les Français n'étaient pas la majorité, même si la folie s'est emparée hier du stade Loujniki au moment de la fin et de la consécration de ces champions du monde qui ont donc gagné cette drôle de finale sur le score de 4-2, vous l'avez entendu. Est-ce que les Français étaient très forts, étaient trop forts hier soir, Constantin ?
Les Français étaient trop forts pour les Croates, épuisés complètement par les trois matchs précédents. C'est ce que je vous ai dit il y a quelques jours à cette émission. Hein. La Croatie n'avait aucune chance de battre les Français à la finale. Bon. C'était définitif, hein, Annie.
Oui, 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 je m'en
vous
rends
en
compte.
Souvenez.
Je m'en rends compte maintenant, surtout. Eric, c'était, on les a vus décliner, effectivement, physiquement aussi, assez rapidement, les Croates.
Oui, oui, c'est sûr, c'était un désavantage pour eux, c'était clair. Après, ils n'ont pas eu beaucoup de réussite. C'est vrai que la première période, ils se retrouvent menés 2-1, alors que la France avait la tête sous l'eau, quand même. Ils ont un but marqué par Mandzukic, un pénalty un petit peu discutable, bon, qui fait tourner le match. Et c'est vrai qu'on sait que la France, quand elle mène, c'est la position idéale, parce qu'elle peut attendre derrière et partir en contre. Et là, Mbappé et compagnie, ils se régalent, et c'est ce qui s'est passé. Donc, cette première mi-temps a été vraiment la clé. La France n'était pas vraiment au niveau. Bon, heureusement, elle a une défense qui tient le coup et donc elle a permis à ce que la Croatie ne marque qu'un seul but. Mais par la suite, elle a réussi à élever le niveau de son jeu et à marquer davantage. Mais à cause de cette configuration, on attend les Croates obligés de se livrer et on les prend en contre. Et ça a payé donc grande part de réussite quand même. Mais ce qui a été la caractéristique de cette équipe de France durant tout le tournoi, bon, c'est la réussite des champions, mais c'est vrai que là, ça voulait tourner en leur faveur. C'est assez impressionnant.
Richard, est-ce qu'ils étaient convaincants, ces Français, dans l'ensemble de la compétition? Parce que peut-être qu'hier, c'était pas leur meilleur match, pas sur le résultat, évidemment, mais sur le plan d'ensemble de cohésion, on va dire, technique.
Justement, c'est une équipe qui, après le match contre l'Argentine, s'est transformée, parce que il faut dire qu'avant, dans les matchs de poule, c'était un peu coup-ci, coup-ça, on avait un peu des doutes, mais je veux revenir un peu sur la première mi-temps. Hier, les 15 premières minutes, la Croatie a presque dominé la France. Et vers la 16e, 17e minute, c'est là qu'est intervenu le coup franc de Griezmann. Et ça a décomplexé les joueurs. Mais je pense que cette équipe était faite pour gagner. Parce qu'il faut dire que dans cette équipe, quand même, il y en a qui ont goûté un peu le goût, qui ont un peu eu le goût de champion du monde en petite catégorie. Pogba, Mbappé. Donc, moi, je pense que cette équipe était fabriqué pour gagner. Moi, je l'ai toujours dit depuis le début. Je disais, et moi j'ai même demandé hier à Hugo Lloris, est-ce que il est d'accord avec le fait que les gens disent que la France a avancé caché? Il me dit oui, parce que et j'ai une phrase de Pogba qui, la première conférence de presse, il a dit je veux être champion du monde. Je lui ai demandé si c'était prémonitoire, il m'a dit c'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui donne.
Ouais. Ali Keïta, ces Français, on a une génération là qui débarque, qui est jeune et qui va peut-être durer.
Oui, parce que c'est vrai que cette équipe, on la sentait plus programmée, on va dire, pour l'Euro 2020, hein, pour jouer le titre à l'Euro 2020. Mais là, ils viennent d'enchaîner deux finales, une perdue donc en 2016, l'autre remportée donc hier en Coupe du Monde. Après, le danger, ce sera de se dire, une fois qu'on est champion du monde, pour certains, est-ce qu'on a encore faim? Est-ce qu'on a envie de se battre pour aller un peu plus loin? On l'a vu avec les Allemands. Moi, j'ai trouvé les Allemands qu'ils avaient moins de niaque, par exemple, qu'il y a 4 ans. Et c'est peut-être lié au fait qu'ils ont atteint la timbale, le Graal, en étant champion du monde. Mais en tout cas, c'est clairement, l'équipe de France a une génération qui va être amenée à dominer les prochaines années, si en tout cas, elle garde ce cap.
C'est l'équipe championne du monde la plus jeune depuis le Brésil 70.
Exactement.
25 ans, 10 mois de moyenne d'âge. Et c'est en cela que cette victoire est quand même surprenante, parce que la France était parmi les outsiders, derrière les gros. Mais on pensait pas quand même qu'elle irait au bout. Donc c'est quand même une petite surprise. De même que le podium global de cette Coupe du Monde, qui est un petit peu surprenant. Bon, c'est pas totalement une surprise, mais c'est les outsiders, en fait, qui se sont imposés.
Oui. Constantin, cette équipe de France, est-ce qu'elle peut faire rêver? Est-ce qu'elle peut faire fasciner? Parce que, effectivement, elle a un style de jeu qui peut-être correspond aussi au temps de maintenant. C'est-à-dire, quand on voit des équipes de clubs comme l'Atlético, où on parle souvent de Mourinho et de Manchester United, où il y a toujours cette énorme force sur la défense, on a l'impression que ça devient la force obligatoire maintenant.
Mais vous savez, l'équipe de France, elle a été toujours comme ça. Hein. Il y a 20 ans, c'était pareil. Mmh. C'était une équipe très rationnelle, très pragmatique, mais qui possédait toujours des individualités qui décidaient les sorts des matchs. Donc, il n'y a pas de surprise pour cette équipe de France, sauf qu'il y a Mbappé qui a surpris tout le monde par ses qualités, par son potentiel, qui a commencé à se développer lors de la Coupe du Monde. Et aussi, peut-être par, vous savez, la détermination qui était toujours propre à l'équipe de France, mais qui a été à une échelle tout à fait exceptionnelle à cette Coupe du Monde.
Mbappé, Eric Mamrut, alors on l'attendait, nous on l'a vu en France beaucoup plus depuis le titre de champion de France de Monaco, hein, ses premiers mois comme titulaire dans une équipe de Ligue 1, et il ne cesse en fait de progresser et de confirmer, on se demande presque où il va s'arrêter.
Ben c'est le cran qu'il a affiché durant cette Coupe du Monde qui est assez impressionnant, parce que bon, il était un petit peu attendu par les spécialistes et puis par le monde entier qui en avait entendu parler, qui se disait mais c'est qui ce Kylian Mbappé, le nouveau Pelé, ah bon vraiment? Et puis effectivement contre l'Argentine, on voit il a réussi un festival exceptionnel et puis c'est parti, il a confirmé ensuite. Il a continué sur sa lancée, il marque 4 buts au total, le meilleur buteur c'est Harry Kane avec 6 buts, donc il n'est pas si loin, et encore en finale, il marque un but très très important, il tente sa chance, de loin, ce n'est pas un but de raccro, c'est un vrai but de buteur, et dans une compétition où les buteurs en fait sont plus ou moins bien illustrés, parce que donc Harry Kane, l'anglais meilleur buteur, mais en fait il n'a pas marqué durant ses 4 derniers matchs. Romelu Lukaku deuxième avec 4 buts, il n'a pas marqué durant ses 4 derniers matchs.
Et il a marqué beaucoup de pénaltys en plus, Harry Kane.
Voilà, donc en fait celui qui a presque le plus marqué dans le jeu c'est Mbappé. En fait, quelque part, l'attaquant vedette de cette Coupe du Monde, même si t'es pas en position d'avant-centre, et ben c'est lui. D'ailleurs, il a reçu le Ballon d'Or du meilleur jeune. Bon, évidemment, peut-être le Ballon d'Or du tournoi, du meilleur joueur du tournoi, c'est peut-être un petit peu trop grand pour lui, quoique. Mais bon, déjà pour une première Coupe du Monde à 19 ans.
Il a récompensé les Croates et Luka Modric qui le méritait aussi de représenter si bien son équipe. Ali, Richard, un mot sur Mbappé.
Oui, très impressionnant, parce qu'en fait ce garçon, il donne l'impression de ne pas douter. Je me souviens de son début de match contre la Belgique, la première prise de balle, il nous fait un double contact, il élimine 3 joueurs. On se dit c'est un quart de finale, il y a de la pression, et lui non, il joue comme quand dans la cour d'école d'ailleurs, il le dit souvent dans ses interviews, pour lui le football c'est un jeu, il veut gagner mais ça
il
reste quand même un
plaisir,
jeu,
et se faire plaisir. Hein. Même en Coupe du Monde, même en finale de Coupe du Monde, il voulait se faire plaisir.
C'est ça.
Il y a un gardien qui a voulu se faire plaisir à la finale.
Allez, oui. parlez-en de la boulette.
un mot sur Mbappé. Il est né d'un père footballeur, il est une mère handballeuse. Mais c'est quand même impressionnant.
Ah, vous en appelez la génétique, vous?
Exactement, parce que oui, il faut toujours aller à la génétique, puisque
la génétique dans la tête aussi, je crois qu'il l'a beaucoup.
Exactement, parce que quand vous le regardez dans le stade, vous avez l'impression que c'est un enfant. Quand il vous parle, vous avez l'impression que c'est une grande personne, c'est quelqu'un de 35, 40 ans.
Il est trop sérieux même, non?
Il est trop sérieux. Et c'est vrai que dans son équipe, ses coéquipiers l'appellent Donatello. Mais je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui, depuis 2 ans, fait parler de lui. Parce que,
à peine 2 ans
qu'on parle de lui.
Déjà chez les jeunes.
Moi, je me souviens, j'ai un ami qui me parlait de Mbappé. Il me disait, il y a un jeune, c'est un Camerounais, il est en France, il s'appelle Eddie Giscard. Il me disait, ce Mbappé, moi, je le sens. Je dis, faut te calmer parce que les jeunes.
Ouais, des Pelé et des Ronaldo, on en a vu beaucoup avec
leur
partout.
Il y avait Pogba, on parlait beaucoup de Pogba. Aujourd'hui, Pogba, c'est Koussi Koussa à cette époque-là. Et dernièrement, il m'a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Mbappé, c'est un phénomène. Je dis, ouais, c'est un vrai phénomène.
Vous vouliez parler de d'Hugo Lloris, de la petite note qui a manqué à l'équipe de France
non,
hier.
Je voudrais ajouter d'abord 2 mots sur Mbappé, puisque ce jeune homme a été découvert à Monaco, là où le propriétaire est un russe, Dmitri Rybolovlev, hein? Ne l'oubliez jamais. En ce qui concerne la bolette de Lloris, je me demande si le score était 1-1.
Non, mais un partout, et même...
Si la France perd, Lloris aurait été crucifié par la foule dans les Champs-Élysées sur l'Arc de Triomphe.
Mm-hmm. En même temps, il aurait peut-être pas tenté ce geste à 1-1. Là, il y avait 4-1. Donc, peut-être il se voyait déjà en train de soulever la Coupe du Monde. Donc, ça a dû peut-être jouer.
C'est vrai que le perturber. C'est le genre de détail qui tombe dans les pertes et profits. Une fois que si l'équipe de France a gagné, personne ne se souvient, par exemple, que Marcel Desailly a été expulsé en finale de Coupe du Monde parce que la France a gagné 3-0. Et là, je pense que la boulette du Golioris, pareil, en France, on préférera en rire maintenant plutôt que de se dire oh là là, qu'est-ce qu'il a fait.
Surtout qu'il a fait notamment avant la mi-temps un arrêt magnifique qui a permis à la France de partir au vestiaire avec, sur le score de 2-1, et c'était déjà
exactement
important.
Moi, je me souviens, hier, j'ai senti Didier Deschamps. Au début, il était stressé, mais à la fin, il s'est lâché parce que
si avant regarde, la fin, c'était
avant
incroyable.
La fin, il s'était lâché parce que quand vous voyez comment il a fait sortir Kanté, qui quand même de toute la compétition, c'est le meilleur joueur au milieu du terrain.
Il était un peu souffrant.
Il était un peu souffrant.
Et c'est pour ça. Exactement. Qu'il a été moins bon.
Il a fait rentrer Nzonzi est venu stabiliser le milieu de terrain. Et si vous regardez bien, Modric, quand il est entré, il n'avait plus beaucoup de capacités. Ses capacités qu'on connaît, il n'en avait plus beaucoup parce que Didier Deschamps, c'est quelqu'un qui dit le foot. Et hier, moi, je l'ai surnommé le talisman du foot français.
Mmh. Ouais, ben ça fait effectivement quelque temps qu'on dit que c'est l'homme qui porte chance finalement.
Exactement.
Et lui, rappelons-le, Deschamps qui est capitaine de l'équipe de Marseille, championne d'Europe, et le seul club à ce jour français à avoir gagné la Ligue des Champions. Mmh. Ensuite, il est le capitaine de l'équipe championne du monde. On se souvient qu'il emmène Monaco quand il est entraîneur en finale de Ligue des Champions, certes sans la gagner, et puis depuis son parcours de sélectionneur.
C'est vrai que c'est un avantage pour cette équipe de France par rapport à la Croatie, c'est la transmission, oui. La culture de la gagne. Ça, effectivement, tous les jeunes de Deschamps, là, ils pouvaient recevoir ça, cet héritage et s'en servir. C'était vraiment une force avec la Croatie, leur héritage. Son héritage, c'était la demi-finale de 98.
Et perdu.
Donc, quelque part, il y avait un plus, un avantage quand même pour l'équipe de France.
Même si c'est amusant, on avait entendu Didier Deschamps bien spécifier qu'il ne leur en parle pas tout le temps de ses victoires, en tout cas, et de ses souvenirs de 98. Mais, par contre, il leur influe, c'est l'influx nerveux un peu, l'influx de ce qui est important, de ce qu'il faut sentir sans doute, Constantin.
À mon avis, Deschamps, c'est quelqu'un qui est très exigeant. S'il donne des consignes, ce sont des consignes à suivre, à ne pas les discuter, à mon avis. Au cas où, s'il y a des discussions, le joueur ne joue plus.
Mais la plupart de tous ces joueurs, ils n'ont presque pas vécu l'euphorie de 98.
Non.
Mbappé, il est né 6 mois après que la France ait gagné la Coupe du Monde. Et je pense que vraiment, c'était pas l'occasion pour Deschamps de leur abâcher le cerveau avec ça, parce que on est dans une compétition. Il y a un objectif à atteindre. Et il faut atteindre l'objectif. Et moi, je trouve que c'est ça que je trouve super en Deschamps, parce que lui, c'est un homme de principe. Ce qu'il dit, il va faire ça. Et moi, je pense que, pour revenir un peu au cas de Rabiot, je pense que avant la Coupe du Monde, il s'est lui-même visé une balle dans le pied, parce que vraiment, tous les réservistes de Didier Deschamps sont des potentiels titulaires après cette Coupe du Monde. Et je pense que, aujourd'hui, on peut parler un peu de Rabiot. Il est un peu quelque part bloquer sa carrière.
Mais oui, ça certainement. En tout cas, eh bien, cette victoire évidemment a fait que la fête s'est un peu répandue. Alors ici à Moscou, il y avait la fête dans les tribunes. Ensuite, elle s'est transportée sur la place rouge. Hein. Certains supporters avec les drapeaux français sont allés devant Saint-Basile. Il y avait la Casa Bleue, ce lieu des supporters qui avait été installé dans l'ambassade de France ici à Moscou. Et puis, eh bien, évidemment, en France, dans les rues de toutes les villes, mais aussi, bien évidemment, dans celle de Paris. Et Thomas de Saint-Léger a promener son micro de Bastille aux Champs-Élysées, une nuit d'ivresse sonore.
Le temps d'une finale, Paris est un stade à ciel ouvert et ses multiples barres de copes débordant de supporters, de supportrices, des jeunes ou moins jeunes, des passionnés de football aux convertis de fraîche date.
Je ne suis pas intéressée par le sport, j'ai dû voir deux matchs dans ma vie, j'ai 70 ans.
Alors pourquoi vous êtes là particulièrement cette année et ce soir ?
Parce que pour l'effervescence, la gaieté, le bonheur.
Et le bonheur des Français, c'est d'abord le malheur de Mandzukic, le Croate, buteur contre son camp. 1-0 pour les Bleus, Perisic égalise peu après, et puis Griezmann soulage tout le monde sur pénalty. De 1, score à la pause, prudence de rigueur chez les supporters, surtout les 20-25 ans, trop jeunes en 98. Eux ont surtout connu les finales perdues en 2006 et à l'Euro 2016.
Je peux pas m'asseoir, je suis obligé de rester debout parce que je suis trop stressé, mais c'est un match d'une génération, donc faut le gagner celui-ci.
Et cette génération 2018 tient un peu de ses aînés 20 ans après la première étoile. Les clins d'œil sont partout, des maillots vintage floqués Zidane à l'indémodable refrain de la victoire. Heureusement, c'est plus juste sur le terrain. Mbappé marque, Pogba limite, ça fait 4-1, 4-2 après une anecdotique erreur d'Hugo Lloris. Et puis enfin, la délivrance, ce moment où tout se relâche, où tous se lâchent.
C'est quoi dans la vie ? Il y a deux choses qui sont importantes. C'est le jambon et champion du monde, mon gars ! Et ouais, on l'est ! J'ai envie de te faire un enfant tout de suite. Et j'ai envie qu'on l'appelle Étoile, l'enfant. On s'en fout, on l'appelle Étoile, l'enfant.
Pour fêter ça, direction forcément les Champs-Élysées, 6 km plus loin, à pied, bien sûr. Et alors ?
On est prêts jusqu'au champ, on marche. Ah ouais. On s'en fout. On y va à poil s'il le faut, mais on y va.
C'est une fois.
Une fois.
Sur le trajet, concert de klaxon, pétard et tape dans les mains. La victoire, c'est un bruit, une fureur. Et pour les nombreux jeunes de sortie, une envie de partager, de se rassembler.
Mais on est aussi une génération qui a connu les attentats. On est une génération qui a connu plein de trucs. Et ça fait partie de ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens sont fous. C'est parce qu'on est trop heureux d'être tous ensemble dans la rue. Et on s'en fout de tout. Et là, on a juste gagné.
Oui, ils sont fous, ces Français, à faire la fête même le dimanche. Des centaines de milliers, des vagues bleues, blanc, rouge qui remontent ou descendent leur plus belle avenue. Cette nuit encore, Paris s'est couché tard et la tête dans les étoiles, les puisqu'elles sont désormais deux.
Thomas de Saint-Léger dans les rues de Paris. Eric, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on répète souvent que la France n'est pas forcément un pays de football, en tout cas pas de bons supporters, on compare avec l'Angleterre. Mais pour ce qui est de donner des étoiles, c'était la troisième finale en 20 ans. Il n'y a pas beaucoup de nations quand même qui ont ce niveau qui dure, on va dire.
Oui, c'est assez spectaculaire. Comment l'expliquer? Je sais pas. C'est vrai que 98 a déclenché quelque chose. C'est né en fait en 82 pour moi avec la génération Platini.
Et Alain Giresse qui était là l'autre jour.
Ouais, il y avait une demi-finale en 58, mais ça n'a pas créé de suite. Non. Mais 82, ça a été l'étincelle. 84, le titre de champion d'Europe. 86, la demi-finale de Coupe du Monde. Et après, ça s'est un petit peu perdu, mais quand même l'héritage est resté jusqu'à l'aventure de 98. Et on voit, on parlait d'héritage tout à l'heure, et quand on voit que Zidane est devenu champion d'Europe avec le Real Madrid à deux reprises, on voit que Deschamps réussit, on voit que cette génération donc a réussi à transmettre cette culture de la gagne. Et que il y a aussi eu des titres chez les jeunes.
Oui, c'est ce qu'on disait tout donc, à l'heure.
Donc maintenant, la France est devenue, alors que dans tous les niveaux, dans tous les sports, dans les années 70-80, Yannick Noah même le disait, on est un pays qui perd. C'est la culture de la lose, jusqu'à ce qu'il gagne Roland Garros, jusqu'à ce qu'Alain Prost gagne des grands prix de Formule 1, jusqu'à ce que Bernard Hinault gagne le Tour de France. Et progressivement, la France a appris à gagner.
Et maintenant, c'est de plus en plus le cas.
Il y a les titres mondiaux handball aussi. Donc maintenant, la France, c'est une nation majeure du sport mondial. Oui.
Vous la voyez comme ça, Constantin, la France?
Oui, un peu. Mais à mon avis, les changements dans le foot français ont été déclenchés par le but de Kostadinov, le Bulgare, qui a marqué en 93. Ouais. C'est à partir de ça que tout a changé au niveau de la
France. Ne va pas à la Coupe du Monde de 94 aux États-Unis.
Au niveau de l'équipe nationale, il y a l'arrivée d'Aimé Jacquet qui a un peu bouleversé ce qu'il y avait là-dedans dans le foot français.
Et puis la formation aussi, parce qu'on en parle beaucoup de la formation à la française, mais c'est vrai que les joueurs français, s'ils s'exportent bien dans les autres clubs, c'est aussi parce qu'on loue la formation dans les clubs de foot français, Ali.
Oui, exactement. C'est vrai que la France jouit d'un label à ce niveau, qui a d'ailleurs été repris par les Allemands, le modèle de formation français à la fin des années 90. Et c'est vrai que, en fait, c'est amusant parce que je parlais hier avec un confrère australien qui me disait, vous avez tellement de talents et tellement de joueurs en France, si vous pouvez nous donner par exemple la casette, nous on le prend volontiers, vous laissez autant de joueurs comme ça à la maison, parce que c'est vrai que quand on y pense, il y a un tel vivier en France. Si on regarde le nombre de joueurs talentueux qui sont restés à la maison, alors qu'ils auraient très bien pu être titulaires dans les autres sélections nationales, c'est assez impressionnant et ça augure d'un très bel avenir encore pour le football français.
Richard?
Oui, justement. Moi, en parlant de formation, je vois la défense de l'équipe de France. Umtiti, formé à Lyon, Varane, formé à Lens, qui sont aujourd'hui les deux meilleurs défenseurs et qui jouent dans deux grands clubs qui sont le Real Madrid et FC Barcelone. Au milieu de terrain, on a Kanté On a des joueurs qui aujourd'hui jouent à Chelsea, qui jouent, presque tous jouent dans de grands clubs. Le seul qui joue en France dans cette équipe qui est titulaire, c'est Mbappé. Mais on voit d'où il vient et vraiment, c'est pas un hasard. Et beaucoup de nations doivent, la seule nation qui peut un peu s'approcher de ce modèle, c'est l'Allemagne, parce que eux aussi, ils ont un modèle un peu performant de formation. Mais je pense que tout le monde, toutes les nations doivent s'inspirer de la formation française, parce que aujourd'hui, c'est le résultat champion du monde. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, 3 fois en 20 ans, finale de Coupe du Monde, c'est pas donné.
Oui, et d'ailleurs, on s'était amusé hein, à regarder quels étaient les clubs formateurs de tous ces jeunes de l'équipe de France. Et en fait, ce n'est pas tous par le Paris Saint-Germain ou par l'OM ou par des grands clubs ou par Lyon. Oui. Ça peut être aussi en passant par Le Havre, en passant par Tours, par Rennes, par exemple. Exactement. En tout cas, cette équipe, elle a semé la joie et on entendait que tout le monde, certains rappelant que la France avait aussi souffert des attentats. Mais là, eh bien, quand il s'agissait de faire la fête, on descend dans la rue et on s'amuse. Dans les quartiers aussi où ont été élevés ces joueurs. On avait écouté l'autre jour dans Radio Foot ce reportage dans la banlieue de Lyon où a été formé Umtiti, justement Samuel Umtiti. Et là, hier, c'était la fête à Bondy. Mais il y avait deux des voisins de Kylian Mbappé et de sa famille qui étaient venus dans le stade à Moscou. Écoutez, Tarek, il avait son drapeau algérien en main.
L'après-midi, on était serein, on était confiant, on avait confiance en eux. Et puis, c'est la récompense, c'est la cerise sur le gâteau en fait. Mais voilà, on est tous contents, on est tous heureux et le peuple français est uni.
Vous étiez là il y a 20 ans, vous vous en souvenez ?
Il y a 20 ans, bien sûr, j'étais un petit peu jeune, je m'en souviens, on était là, mais c'est pas la même sensation. J'étais un petit peu jeune et là, sur le terrain, sur le stade, c'est inimaginable, j'ai réalisé mon rêve. Et la France est championne et félicitations à tous les Français, le peuple français.
Qui vous avez préféré dans cette équipe, vous ?
Bah comme je suis de Bondy, je préfère Kylian Mbappé. On est originaire de la même ville et je connais sa famille. Et puis félicitations à lui et toute la France.
On voit une étoile naissante, mais surtout, alors on se souvient en 98, beaucoup vanté et peut-être trop cette France black blanc beurre, mais là, on a l'impression quand même, Eric, il y a un mélange et un mélange qui se reflète beaucoup, et bien dans les quartiers aussi périphériques de la France. D'où viennent ces jeunes ?
Il y a un mélange, mais quand un pays gagne, de toute manière, voilà. C'est ça qui est extraordinaire.
Tout le monde
est content. De toute manière, tout le monde sort dans les rues. Enfin, on le voit. C'est vrai que la puissance du football, c'est extraordinaire. Il n'y a pas un sport qui provoque ces effusions, ces joies. Enfin, on l'a vu de loin, nous, d'ici, mais les Champs-Élysées qui se remplissent dès la demi-finale. Et c'est vrai que ça transporte les foules et c'est vrai que les gens ont tendance à s'approprier leur équipe nationale de football, mais c'est vrai pour la France, mais c'est vrai même plus pour d'autres pays, les Sud-Américains notamment. C'est vrai que bon, on l'aura vu ici en Russie, dans toutes les villes, les supporters argentins, colombiens, brésiliens, l'ambiance qu'ils ont pu mettre.
L'euphorie, oui.
C'est extraordinaire. Donc, bon, c'est la puissance du football qui est incroyable.
Alors, ce qu'il y avait d'amusant, c'est que hier, à chaque fois que l'équipe de France marquait, eh bien, c'était salué par une chanson. Et cette chanson, eh bien, elle nous vient d'un groupe africain, n'est-ce pas, Richard ? Oui. C'était la chanson Allez de Magic System. Voilà, ça cohabitera désormais avec I Will Survive de Gloria Gaynor pour les souvenirs des plus anciens de 98. Richard, un point triste peut-être dans cette Coupe du Monde, c'est la disparition rapide des équipes africaines pour la première fois depuis 1982. Hein, je me trompe pas, Eric, c'était
1986,
qu'une équipe africaine n'accédait pas au deuxième tour. Est-ce que c'est le hasard aussi des tirages au sort ?
Non, c'est pas le hasard du tirage au sort. Je pense que l'Afrique ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Parce que il est temps qu'on puisse tricher chez les autres. Parce que les équipes africaines viennent toujours en victime résignée. Et ça ne doit plus être le cas. Toutes les équipes qui sont venues avaient du potentiel. Mais elles, dans les matchs, elles n'ont pas osé. Le match de Sénégal qui à la main pour passer au deuxième tour, il n'arrive pas. Le Nigeria, pareil. Le Maroc, qui joue bien devant l'Espagne, qui joue bien devant le Portugal, mais n'arrive pas à concrétiser les actions.
Devant l'Iran.
Oui, c'est les nations africaines n'ont qu'à s'apprendre à elles-mêmes. Moi, je pense que c'est une bonne leçon. Mais comme nous, chez nous, en Afrique, on dit toujours, nous, on ne retient aucune leçon, parce que vous verrez que en 2022, on va reparler des mêmes choses. En 2014, on a parlé des mêmes choses. En 2018, pareil. En 2022, pareil. Moi, je suis très sévère vis-à-vis des équipes africaines, parce que nous, on a l'impression que c'est les autres qui doivent. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, aujourd'hui, tout le monde dit l'équipe de France qui a gagné, c'est le Cameroun qui a donné la victoire à la France. Je dis arrêtez ça, parce que la France a su manager ses jeunes. Si ces jeunes étaient dans les équipes africaines, ils seront des frustrés et ils n'auront pas donné le 1% des capacités qu'ils ont.
Gianni Infantino a fait une petite parenthèse d'ailleurs en promettant qu'il y aurait un peu de ménage dans les fédérations où il y a des crises, comme on dit, pour essayer justement de permettre au football africain. Je ne sais pas si ça passe par les fédérations, mais bon. Ali.
Oui, en fait, moi, je voulais juste mettre un bémol par rapport à l'Égypte, en fait, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui serait devenu de cette équipe si Mohamed Salah avait attaqué la compétition en forme, parce que ils étaient sur une bonne voie et là, ils sont arrivés. Il y avait trop de remue-ménage autour de cette absence-là, de cette blessure.
C'était devenu très politique aussi.
Voilà, c'était devenu lourd. Oui, voilà.
Non, mais Annie, il faut qu'on arrête de mettre le destin d'une équipe
sur un seul joueur.
C'est
oui,
une
mais on
équipe.
Sait que, par exemple, Drogba a changé aussi beaucoup de choses avec la Côte d'Ivoire.
C'est bien pour ça qu'on dit une équipe. Parce que moi, je te coupe pas. Le Cameroun est allé en Coupe d'Afrique avec des non-names. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique parce qu'ils étaient une équipe. Si Samuel Eto'o avait été dans cette équipe, je ne suis pas sûr qu'elle aurait fait le résultat qu'elle a fait.
Eric, un petit mot sur ces équipes africaines.
Moi, je ne serais pas totalement sévère, pas autant, même si évidemment le bilan n'est pas bon, on ne peut pas dire le contraire. Mais bon, pour moi, effectivement, certaines équipes ont hérité d'un tirage au sort très compliqué. C'est le cas du Maroc avec Portugal, Espagne. C'est quand même, c'est pas facile de se qualifier dans ces conditions-là, mais ils ont montré un beau visage. L'Égypte, on l'a dit, Salah n'était pas en forme, donc c'était très compliqué. L'Égypte a déçu. Le Nigeria n'était pas si loin, ça ne jouait pas grand-chose. L'Argentine marque en toute fin de match. Bon, ça, c'était à deux doigts. Le Sénégal, c'était à deux doigts, vraiment. Un but, là aussi, encaissé en toute fin de match. Et puis la Tunisie était dans un groupe aussi très fort avec la Belgique et l'Angleterre qui ont été jusqu'en demi-finale. Donc, évidemment, il a manqué un petit quelque chose, un petit supplément d'âme, des petits détails, comme disent les footballeurs, qui, à la fin, font que c'est un échec. Mais bon, tout n'est pas à mettre à la poubelle, selon moi.
Il garde l'espoir, Eric Mamrut. Constantin.
Oui, je voudrais ajouter un mot sur les équipes africaines, puisque il y a un moment où j'ai parlé à l'entraîneur qui s'appelle Valérie Nepomniachtchi, entraîneur en chef de l'équipe camerounaise en 1990, qui est allé au quart de finale avec cette équipe, et l'ont perdu contre l'Angleterre. Et il m'a dit que le plus gros problème des équipes africaines, c'est beaucoup de personnes qui prennent des décisions derrière l'entraîneur. Ce n'est pas que l'entraîneur en chef dit on fait ça, ça et ça. Non, il y a toujours le président de l'État, le président de la fédération, les sponsors qui arrivent et disent ah non, on fait pas ça, qui ont beaucoup de l'influence sur le choix de l'effectif, des choix tactiques et sur les questions concernant la préparation de l'équipe.
Ouais, qui gêne évidemment beaucoup bien ces équipes, leurs sélectionneurs et avoir des résultats. Mais on y reviendra évidemment dans Radio Foot International. Pour l'instant, eh bien, on va s'attacher aussi à faire un petit bilan russe. Avec l'entrée en jeu de Daniel Valo, le correspondant permanent de RFI à Moscou. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Et puis à vos côtés, Anya Stroganova. Bonjour Anya.
Bonjour.
Alors les auditeurs de RFI vous connaissent sans doute plus que d'autres parce que vous parlez russe et que vous parlez aux auditeurs de RFI en russe, c'est ça, sur les antennes.
C'est hein ça.
Alors vous avez votre auditoire, on va dire, mais là vous êtes rentré dans la cour de Radio Foot International. Parce que d'abord, j'aimerais évoquer le bilan peut-être à la fois social sans doute, mais aussi sportif, de la Zbornaïa, éliminée en quart de finale par cette Croatie qui est finaliste. Constantin, on ne s'imaginait pas qu'elle ferait un tel parcours. Qu'est-ce qu'elle va laisser ici? Est-ce qu'elle va continuer finalement à enthousiasmer, à être suivie, ou ça va retomber?
Pour le moment, on est toujours persuadé que cette équipe-là a fait un exploit. Ce sont les émotions, c'est l'heure des émotions. D'ici 2-3 semaines, ça va arriver l'heure de réflexion.
Et là, je suis toujours sceptique, je suis toujours pessimiste. Et il n'y a pas beaucoup, il y a beaucoup de choses à changer dans le foot russe, mais il n'y a personne pour le faire. Et en quelque sorte, le succès de l'équipe nationale qui est allée à la quart de finale, à la quart de finale pour la première fois de l'histoire du foot russe, c'est une sorte de, comment dirais-je, de prétexte de ne pas penser aux problèmes qui restent toujours. Mmh. Ça, c'est, je suis triste là-dessus.
Anya, la société russe, elle a fêté ces champions, elle les a soutenus aussi, elle les a encouragés. C'était peut-être surprenant parce que, alors, on savait pas trop si le football est un sport national ou en tout cas un sport populaire, mais en tout cas, elle est partie derrière cet événement.
Oui, je pense que pour les Russes, c'était un événement majeur. C'est la première fois de l'histoire du foot russe que l'équipe nationale montre un tel résultat. Moi, j'ai été à Kazan, à Nijni Novgorod et à Moscou pendant les matchs où la Russie a joué. Et c'est vrai que cette effervescence qu'on a vue dans ces villes, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose du jamais vu peut-être, je sais pas, peut-être dans les années 90 il y a eu des matchs où c'était aussi fort, mais là c'est vrai que...
Oui bien sûr, Russie-France au Stade de France, 3-2.
Ouais, donc c'était dans un autre contexte.
Mais dans les villes russes, c'est quelque chose de nouveau, je pense.
Alors, ce qui a aussi beaucoup plu, l'organisation, elle est louée, mais je pense que peut-être que les Russes s'attendaient à ce que ce soit aussi bien organisé, Daniel ou...
Je ne sais pas à quoi ils s'attendaient au niveau de l'organisation. Ils ont été surpris par le parcours de l'équipe de football, mais est-ce qu'ils attendaient une bonne organisation ? Je pense que En Russie, les gens sont fiers que cette Coupe du Monde se soit bien passée. Il y a beaucoup de fierté quand on parle aux Russes sur ces images de supporters étrangers qui sont ravis, qui ne tarissent pas d'éloges pour cette Russie accueillante, cette Russie ouverte. Voilà, qui est une surprise pour les supporters étrangers, un petit peu, en tout cas pour une partie d'entre eux. Les Russes, une majorité de Russes... Il y a une fierté par rapport à ça.
Ouais. Constantin, on sait qu'en 1980, il y avait eu les JO à Moscou. Et à ce moment-là, c'était évidemment une autre époque où les supporters, ou en tout cas ceux qui venaient encourager les athlètes, avaient été plutôt tenus à l'écart de la population et vice-versa. Est-ce que là, ce mélange, ça vous a surpris ou finalement, c'est une image tronquée que nous, on a aussi de la Russie, d'imaginer qu'ils auraient peut-être... pas voulu se mélanger.
Vous parlez des JO de 80, de Moscou. Hein, mm-hmm. C'était un monde...
Oui, c'était encore l'Union soviétique.
C'était encore l'Union soviétique, c'était un monde fermé, il y avait le rideau de fer et tout ça. Moscou, à l'époque, c'était une ville... c'était une ville du communisme. Puisque... tous les éléments... Comment on disait à l'époque tous les éléments ennemis ont été chassés hors de la ville et il ne restait que les gens qui souriaient tout le temps aux étrangers et aux athlètes. Au niveau de l'organisation, c'était parfait. Comme aujourd'hui, on peut le dire, vous avez dit au début de l'émission que c'était presque parfait. Non, c'était parfait.
Alors pas presque parfait. Je disais presque parce que hier on s'est amusé à voir ces personnes courir sur la pelouse. On dit oh là là, il y a une fausse note, un peu comme Loris.
Non. Ce qu'on n'a pas chassé de la ville, un peu des SDF ou des hooligans peut-être un peu qui auraient pu.
Non, les hooligans sont restés à la maison, mais ça c'est un travail de police qui a été fait en amont.
De la FSB, c'est de la police secrète. Hein. Il y a un accord entre la police secrète, à ce que j'ai entendu dire, et les leaders des hooligans. Mais malgré tous les défauts que nous, les Russes, nous avons, on est toujours très hospitaliers et on est toujours prêt à faire tout notre possible pour que la fête réussisse.
Alors, Annie mentionnait l'irruption. En fait, c'était des Pussy Riot. Hein, on sait à présent...
On a eu l'impression que c'était des femmes, mais on se demandait...
Trois femmes et un homme.
Habillé en policier.
Alors, avec un message précis, peut-être, Anya, tu peux en parler. Je ne sais pas.
Oui, c'était un message au pouvoir russe et il demandait de libérer les prisonniers politiques, d'arrêter de persécuter les gens pour les reposts et les likes sur les réseaux sociaux. Et cette action, en fait, c'était ils se sont inspirés d'un poète russe qui s'appelle Dmitri Prigov, et c'était le 11e anniversaire de sa mort, je crois, et elle s'appelait le policier céleste. Donc c'était le policier qui rentre en scène et qui demande la libération des prisonniers politiques. Mais il faut préciser que pour l'instant, ils n'ont rien eu. Je pense qu'ils vont juste payer des amendes.
Heureusement.
Et le policier qui les a arrêtés, il a dit que c'était dommage qu'on ne soit pas en 37. Donc là,
ouais, un peu sévère. Mais en tout cas, c'est vrai que je parlais de cette fausse note parce qu'on voyait ça pendant la finale et que c'est extrêmement rare. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce qui restera pour la Russie? C'est vous, Daniel Valot, qui allez nous dire dans quelques semaines en tant que correspondant.
Ben voilà, c'est la question. Est-ce que cette parenthèse enchantée va se refermer aussitôt? C'est vrai que les Russes sont majoritairement très fiers de ce qui s'est passé. Il y a aussi une partie de la population qui est plus critique et qui dit voilà, on aimerait que cet esprit de fête, de liberté aussi, cette possibilité de se rassembler dans les centres-villes et de faire la fête, tout simplement, se poursuive après le départ des supporters étrangers. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne va pas être le cas.
Eh bien, on approche de la fin de Radio Foot International. Alors, on voulait quand même terminer en musique avec une musique russe. C'était amusant hier, Constantin. On a eu Kalinka et avec quand même une petite touche brésilienne.
Ronaldinho qui tapait au tambour.
Ronaldinho qui était au tambour. La fête, elle va continuer encore un petit peu, selon vous, Constantin ?
Oui, 2-3 jours encore, mais c'est déjà ce sont les jours de travail pour les Russes.
Oui, on a vu ce matin dans le métro, il y avait pas de supporters, évidemment, trop tôt ce matin. Par contre, les gens partaient au travail.
Mais bientôt, la reprise du championnat de Russie, donc on va se souvenir de cette Coupe du Monde quand on va voir les héros de cette Coupe évoluer sur le terrain dans les villes de province, à Moscou et à Saint-Pétersbourg aussi.
Et ils jouent tous en Russie, vos joueurs de la Sbornaïa ?
Presque tous.
Ouais. Et Anya, cette Russie, elle vous a surprise, vous, quand vous l'avez vue en ces jours de Coupe du Monde ?
Moi, quand je suis arrivée à l'aéroport de Kazan avant le match de France-Argentine, et j'ai vu ces volontaires à l'aéroport qui accueillaient avec de grands sourires ces supporters français, ça m'a surpris. C'est vrai, c'est une image de cette Russie accueillante qu'on n'a pas eu encore d'occasion de voir avant la Coupe du Monde.
Daniel, la Russie s'est acheté une bonne image pour plusieurs années, là.
Alors, plusieurs années, je ne sais pas, mais pour Vladimir Poutine, l'objectif en termes de communication est plus qu'atteint. Il est au-delà de ses espérances, je pense. Hein,
on l'a vu très stoïque hier sous le parapluie, alors que tout le monde s'est mouillé
autour
de lui.
Alors, il ne s'est pas tellement montré dans les stades, hein, curieusement. Je pense que d'autres chefs d'État en auraient profité davantage. Mais diplomatiquement, il est évident que cette Coupe du Monde aura eu un impact positif pour la Russie. Oui.
C'est la fin. Voilà, de ce Radio Foot International. Et on vous le rappelle, la France est donc championne du monde ici à Moscou. Je voudrais prendre le temps de remercier tous ceux qui ont participé à cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup, Eric Mamrut. Merci aussi, Ali Keita, Richard Naha, Daniel Valot. Merci, Anya aussi. Et Constantin Kletchev, merci mille fois. Merci aussi à David Finzel, à Guillaume Ploquin, qui était le réalisateur de Radio Foot ici à Moscou, et puis Médard Chablaoui et Denis Chastel, et enfin l'Institut français de Moscou qui nous a accueillis pendant une semaine.